Soyez les bienvenus sur France Inter, il est 8h. Voici le journal de Christelle Rebière. Bonjour Christelle.
Bonjour à tous.
Avec à la une ce matin, 258 Afghans évacués d'Afghanistan par la France. Ce sont des journalistes, des personnes qui ont travaillé avec l'armée française. Elles sont arrivées cette nuit à Doha, première étape avant Paris. Emmanuel Macron vient de remercier le Qatar. Vous l'entendrez après les autres titres, Christelle.
Ils sont à bout et toujours en première ligne. Les soignants manifestent aujourd'hui à Paris pour dénoncer la misère de l'hôpital alors que monte la cinquième vague de Covid. 2000 personnes sont en réanimation. Première mesure de restriction, notamment au marché de Noël de Strasbourg. La libérale ou le radical? Les adhérents des Républicains choisissent aujourd'hui celui ou celle qui les représentera à l'élection présidentielle. Mais il n'y a sans doute pas tant d'écart idéologique entre Valérie Pécresse et Éric Ciotti. Nous ouvrirons une case du calendrier de l'Avent de France Inter avec une idée cadeau pour les amoureux de la photo et du théâtre. Lui, il préfère le sport. Jean-Pierre Blimaud nous rejoindra à la fin de ce journal.
Et un mot sur l'invité à 8h20. On va parler d'agriculture en France, on va parler d'alimentation avec le ministre de tutelle, Julien de Normandie.
France Inter.
Des candidats au départ qui s'agrippent à des avions au décollage, des files d'attente interminables et des tirs des talibans. Vous vous souvenez sans doute de ces images terribles l'été dernier, au moment où les fondamentalistes ont pris le pouvoir en Afghanistan. À la faveur du pont aérien, la France notamment avait rapatrié plusieurs milliers d'Afghans. Depuis, les évacuations se font au compte-gouttes. Celle de la nuit dernière n'en est que plus spectaculaire, Claude Guibal.
Ils sont 258, des femmes, des hommes dont la vie, s'ils restent en Afghanistan, et menacés par leur engagement. C'est ce qu'explique le communiqué du Quai d'Orsay qui a annoncé dans la nuit cette opération d'une ampleur qualifiée d'exceptionnelle. Parmi ces Afghans, des journalistes notamment, mais aussi et surtout quelques PCRL, les personnels civils de recrutement local, ces fameux auxiliaires de l'armée française, chauffeurs ou interprètes, des hommes dont le sort faisait l'objet d'inquiétudes devant la réticence de la France à leur accorder des visas. Parti de Kaboul, leur avion a pris la direction du Qatar, Doha, l'incontournable intermédiaire des négociations avec les talibans. Ces Afghans, qui ont été évacués en compagnie de 11 Français et d'une soixantaine de Néerlandais, arriveront en France en fin de semaine prochaine.
Et le chef de l'État en visite à Doha en a profité ce matin pour saluer les efforts du Qatar.
Nous devons tous remercier le Qatar pour le travail qui a été fait depuis... Le 10 septembre dernier, les coopérations sont intensifiées et plusieurs opérations ont été organisées, justement grâce au Qatar, qui nous ont permis l'opération finalisée le 2 décembre, qui a évacué 11 Français, plusieurs dizaines de Néerlandais et là aussi de nombreux Afghanes et Afghans qui étaient en danger compte tenu de l'activité qui avait été la leur. Au total, grâce à cette voie ouverte par le Qatar depuis le 10 septembre dernier, nous avons pu évacuer centaines de Français et un peu moins de 400 Afghanes et Afghans. Ce qui est, comme vous le voyez, considérable et ce qui nous a permis de mettre en sécurité nos ressortissants, mais aussi des Afghanes et des Afghans qui risquaient pour leur vie compte tenu de leur combat et en particulier de leur coopération avec la France.
Des propos recueillis par Valérie Gasse d'RFI. Prochaine étape d'Emmanuel Macron, l'Arabie Saoudite, ce sera moins consensuel. Il doit rencontrer l'héritier royal, le prince Mohamed Ben Salman, impliqué dans le meurtre du journaliste Jamal Khashoggi et mis au banc de la communauté internationale. Poignée de main à suivre. Le chef de l'État se défend en expliquant qu'il faut veiller à la stabilité dans le Golfe.
La cinquième vague de Covid est bien là, mais on ne sait pas encore comment elle va prendre.
Et oui, le nombre de contaminations a atteint près de 50 000 personnes en 24 heures. La barre des 2000 personnes en réanimation vient d'être franchie. Ça s'annonce tendu pour les fêtes de fin d'année. Et à l'hôpital, des équipes exsangues ou en sous-effectif vont devoir l'affronter. Les soignants se mobilisent aujourd'hui à Paris pour défendre l'hôpital et réclamer des heures décentes de travail. Véronique est pédiatre dans l'un des principaux hôpitaux des Yvelines depuis près de 20 ans. Et sa vocation ne lui suffit plus.
Actuellement, c'est du rappel sur les week-ends, c'est augmentation du travail en début de nuit, c'est augmentation du travail de nuit parce que nous avons des postes vacants comme dans tous les hôpitaux de France, en fait, j'ai envie de dire. donc on travaille vraiment beaucoup. Donc là, actuellement, je suis sur un week-end sur deux de travail depuis mi-octobre. Là, non, on ne parle pas de salaire. Donc même si on paye 15 fois plus, je pense que... non, ce n'est pas ça. On parle de pouvoir bien faire notre métier, pouvoir prendre en charge, donc moi, en tant que pédiatre, les enfants de manière sécuritaire, être sûr que j'ai bien fait, ne pas avoir peur parce que je les ai envoyés à la maison alors qu'ils auraient dû avoir un lit d'hospitalisation, parce que c'est ça qui se passe.
Est-ce que vous vous sentez de continuer comme ça ?
Je commence à réfléchir combien de temps, personnellement, je peux encore continuer sur cette lancée-là. Est-ce qu'il ne faudrait pas avoir un plan B si l'hôpital public s'effondre ?
Véronique, pédiatre interrogée par Marion Ferrer. Le plan blanc a déjà été déclenché dans plusieurs hôpitaux de l'Est du pays. À Strasbourg, le taux d'incidence est de 500 cas pour 100 000 habitants. Et le marché de Noël, une tradition qui remonte au Moyen-Âge, inquiète. Alors, au bout d'une semaine seulement, il a fallu changer les règles. Fermeture à 20h et contrôle du pass sanitaire, Émilie Pou s'est rendue à l'une des entrées de la place Breuil.
Et à chaque entrée de la place, impossible de rater les panneaux, les nouvelles règles sont écrites en rouge et en gras, sans parler des barrières et des agents à l'entrée, avec des visiteurs parfois un peu contrariés.
Votre pass, s'il vous plaît.
Moi, j'aimerais tout juste traverser pour aller à la poste, en face du tribunal. Et vous pouvez me suivre du regard.
Non.
Si, si.
Ce n'est pas question de ça. Vous avez un pass sanitaire sur vous ?
Oui, mais vous voyez, seulement pour ces quelques mètres, vous m'embêtez.
Je suis désolé, madame.
La plupart des visiteurs sont quand même compréhensifs, voire même rassurés par les nouvelles mesures.
Il faut se protéger comme on peut. Il ne faut pas surtout abandonner un mythe comme ça qui date de plusieurs centaines d'années, donc non, faut pas s'arrêter, ça me dérange pas plus que ça de montrer mon passe.
C'est important, si on veut vraiment s'en sortir, il faut que tout le monde joue le jeu, et non, moi ça m'a pas du tout embêté, au contraire.
Dans leur cabane, les exposants, eux, sont plutôt résignés, comme Brandon, vendeur de gaufres et de crêpes.
Je pense que c'est nécessaire pour qu'on puisse rester ouvert, et en ces périodes, sur cette période difficile, je pense que c'est ce qui est primordial. Donc après, on suit, hein. On fait ce qu'on peut.
Du côté de la mairie de Strasbourg, on espère que ces mesures suffiront. Tout le monde attend désormais les annonces de Jean Castex lundi.
Émilie Pou de France Bleu Alsace, Jean Castex qui pourrait annoncer de nouvelles mesures de restriction. L'Allemagne, elle, va passer à la vaccination obligatoire au début de l'année prochaine. Et en Italie, certains cherchent à resquiller. Ainsi, un quinquagénaire du Piémont voulait son pass sanitaire, mais sans l'injection. Alors il s'est présenté dans un centre vaccinal, a tendu son bras. Et l'infirmière s'est rendue compte qu'il s'agissait d'un bras en silicone. Une prothèse plutôt bien faite, mais au toucher, c'était imparable. Qui portera les couleurs des Républicains à l'élection présidentielle? Les votes pour le second tour sont ouverts aux adhérents du parti jusqu'à 14h. Il faut départager Éric Ciotti, arrivé en tête de Valérie Pécresse, qui bénéficie du report de trois autres candidats. On dit souvent que c'est un choix entre deux lignes politiques. Pas si sûr, Anne Souhaitemont.
Éric Ciotti ou Valérie Pécresse. Sur le papier, le premier est le tenant d'une ligne radicale, la seconde capable de travailler avec une droite modérée et même avec le centre, comme dans la région qu'elle préside. Mais s'agit-il vraiment de deux droites, de deux droites irréconciliables ? Du côté d'Éric Ciotti, on a en tout cas fait campagne sur la nécessité d'être dans la rupture, y compris avec une certaine droite. Stratégie inverse chez Valérie Pécresse, où on insiste au contraire sur les convergences de fond, sur la sécurité, l'immigration, la lutte contre le communautarisme. Le projet de Valérie est aussi fort que celui d'Éric. Elle n'est pas d'une droite modérée quand il serait d'une droite forte, explique l'un de ses soutiens. Ne surtout pas cliver, mais rassembler, symbole de la volonté d'unité de Valérie Pécresse, la candidate pourrait, en cas de victoire, s'inspirer de l'une des propositions phares d'Éric Ciotti, la suppression de l'impôt sur les successions, pour revoir certaines de ses mesures en matière fiscale.
Impossible n'est pas français, c'est le slogan de campagne que s'est choisi Éric Zemmour, une formule attribuée à Napoléon. Il dévoilera le nom et le logo de son parti demain lors de son grand meeting à Villepinte en région parisienne et il s'assure le ralliement de Jean-Frédéric Poisson du parti Via, ex-chrétien démocrate.
Un numéro ce week-end, c'est le 36-37, numéro qui existe depuis 35 ans.
Et oui, c'est celui du Téléthon. Votre don sert plus que jamais dans la lutte contre les maladies rares. Grâce au Généthon, des traitements ont pu être mis au point. À Soyaux en Charente, ça a changé la vie de Mathéo Pierre Marsa.
C'est quoi comme chose ?
Derrière ses belles lunettes rouges, Mathéo a le regard malicieux pour jouer à Pokémon Go et à l'animation de magie sur l'ordinateur. À 5 ans, il souffre de myotrophie spinale. Explication.
Bah, ça veut dire que j'ai moins de force dans les jambes que les autres. Donc du coup, je peux pas marcher. chier.
Cette maladie, dite maladie rare, n'est pas si rare que ça. Il y a d'autres cas en Charente et environ 80 enfants en France. Il va à l'école en maternelle grande section et à la garderie avec une AVS, sa maman, Clémence Boudet.
On essaie qu'il puisse avoir une certaine autonomie. On n'a pas des œillères, notre enfant est handicapé. Et c'est pas un gros mot de le dire, ça fait partie de lui, mais on a une vie qui est heureuse.
Mathéo était le deuxième bébé au monde à bénéficier, hors essai clinique, d'un médicament élaboré grâce au Téléthon et qui lui fait du bien.
C'est pas que ça fait du bien, ça me donne des forces dans les jambes. C'est ça l'idée.
Le médicament a récemment changé, il est aujourd'hui moins invasif, explique Clémence.
Quand Mathéo a commencé à recevoir ce traitement, c'était des ponctions lombaires, au début très rapprochées. Et comme la recherche a continué d'avancer, on a pu passer sur une thérapeutique orale. Tous les soirs, on lui donne ce petit médicament.
Mathéo espère marcher un jour. Les parents comptent sur la recherche médicale et le Téléthon pour l'aider à être heureux.
Reportage Pierre Marsat de France Bleu La Rochelle. Et à l'heure où l'on se parle, le fameux compteur du Téléthon affiche près de 9,5 millions d'euros collectés. On ouvre maintenant une nouvelle case du calendrier de l'Avent de France Inter. Chaque jour, une idée cadeau jusqu'à Noël. Stéphane Capron a choisi ce matin un livre de photos signé Fabrice Robin. Son titre, Jouer. Il rend hommage à deux grands artistes dont les spectacles ont tous été des succès. Valérie Lesor et Christian Heck, deux illusionnistes du théâtre qui ont déjà fait rêver des milliers de spectateurs avec 20 000 lieues sous les mers, La Mouche ou Le Bourgeois Gentilhomme.
Ce livre s'adresse à tous les amoureux du théâtre. Il permet d'entrer dans les coulisses et dans les secrets de fabrication de deux grands créateurs. Il y a des photos mais aussi des dessins, des croquis. C'est un hommage aux faiseurs de théâtre qui entourent Valérie Lesor.
Ce qui nous plaît beaucoup dans ce livre, c'est que nous on travaille vraiment main dans la main avec des équipes techniques et artistiques et que ça rend hommage aussi à tout ce travail puisqu'on voit en fait le travail de création à travers des belles photos.
Les photos de Fabrice Robin révèlent tout le travail d'orfèvres, des costumiers, des maquilleurs, des perruquiers, on entre véritablement dans l'intimité de l'univers de Valérie Lesor et de Christian Heck.
Les détails sont assez beaux avec tous nos collaborateurs, ils sont très soucieux de ce détail. Et c'est vrai que dans les grandes salles, parfois quand on est tout au fond, on ne va pas profiter de ce détail. Et grâce aux photos de Fabrice, on peut les voir.
C'est des œuvres d'art en elles-mêmes. Il n'est pas là pour témoigner de notre travail, il fait des photos artistiques. Donc rien que le livre tout seul, même si on n'était pas à l'intérieur, même si ça ne suivait pas notre travail, c'est de toute façon un très beau livre de photographie.
C'est aussi un livre à offrir à tous les jeunes qui rêvent de travailler dans les métiers d'art pour leur montrer la richesse des professions artistiques.
Voilà, une idée de cadeau pour Noël. Lui, il arrive les bras chargés de suspense.
Oui, pour parler de sport.
Bonjour Jean-Pierre Blémaux.
Bonjour Christelle.
On commence par le football. Trois matchs au programme, deux belles affiches aujourd'hui pour la 17e journée de Ligue 1.
Oui, à 17h notamment. Marseille retrouve son public après un match à huis clos. Marseille reçoit Brest en grande forme. Les Brestois viennent de gagner 5 fois en Ligue 1, une première dans l'histoire du club breton dans cette compétition. L'OM, deuxième au classement, veut mater donc cette équipe en forme. Mais à 21h, il y aura un autre défi pour Lens, 5e du championnat, qui défie le Paris Saint-Germain, leader incontesté. La saison passée, les Lensois avaient terrassé les Parisiens et rêvent d'un nouvel exploit dans le rentre du stade Bollaert qui sera plein à craquer, Alexandre Vaux.
La saison dernière, dans un stade Bollaert quasi vide à cause du Covid, le RC Lens, tout juste remonté en Ligue 1, avait réussi l'exploit de battre le champion de France. Cette saison, le contexte est différent, prévient l'entraîneur lensois Franck Haise.
Je m'appuie pas trop souvent sur le passé, encore moins parce que c'était un match de début de saison de l'année dernière et qu'il s'est passé beaucoup de choses différentes.
Paris est actuellement leader et compte déjà 12 points d'avance sur Marseille, mais les Parisiens viennent de concéder un 0-0 décevant à domicile face à Nice. L'entraîneur argentin Mauricio Pochettino.
La clé pour faire mieux que contre Nice sera de marquer des buts, être plus efficace. Je m'attends à un match très difficile.
Pression donc sur le PSG mais aussi sur les Lensois à l'heure de recevoir Paris et son septuple ballon d'or Lionel Messi. Et parce qu'aujourd'hui c'est la Sainte-Barbe, la fête des mineurs, un jour très important comme l'a appris à son arrivée à Lens le gardien corse Jean-Louis Leca.
Bien entendu que c'est quelque chose qui nous touche. On sait l'importance du bassin minier et l'importance de ce que les mines ont été par le passé. Donc on ne lâchera pas de la première à la 90e.
Et dans un stade Bollaert, cette fois plein à craquer, 38 000 personnes, mais pas de supporters parisiens interdits de déplacement.
Et on ne sait pas si ce sera la fête des mineurs, mais à Lille, il y a aussi un match. C'est à 19h contre 3.
En rugby, un choc au sommet au programme de la 14e journée.
Et oui, le Stade Toulousain, leader du championnat, se déplace chez son dauphin, l'Union Bordeaux-Bègles. C'est ce soir, un petit peu après 21h, une affiche prometteuse qui pourrait exacerber la motivation des deux équipes car c'est aussi un derby. Mais cela n'empêche pas le respect pour Christophe Urios, l'entraîneur bordelais. Le Stade Toulousain est même un exemple à suivre.
Ils nous inspirent dans la façon de travailler, dans la façon de construire leur club, dans la formation aussi. Il y a la culture de la gagne dès le plus jeune âge. Hein. Les jeunes passent les étapes les unes après les autres. Il y a toujours une concurrence terrible. Et quand ils arrivent chez les pros, ils sont prêts. C'est ça la grande différence. On a besoin encore de continuer à progresser au niveau en termes de club, de structure de club. Aujourd'hui, on ne peut pas se comparer à Toulouse, c'est pas possible, quoi. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'ambition, hein. Attention, hein. Pour te répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut mieux que nous, c'est culture de la gagne.
Voilà, et puis les premiers championnats du monde officiels de breaking, le nom désormais utilisé pour le breakdance, sont organisés ce soir à Paris au Théâtre du Châtelet. Mais oui, parce que la discipline va faire son entrée au JO en 2024, évidemment. À Paris.
Et parce que la danse, c'est aussi du sport. Merci Jean-Pierre.
Avec la culture de la gagne, hein, j'ai bien compris. Jean-Pierre Bimaud dans le journal de Christelle Robière.